Les titres du journal.
L'Office Assurance Invalidité du canton de Vaud s'apprête à ouvrir un espace d'écoute et de conciliation. Ce lieu s'adressera aux bénéficiaires mais aussi aux employés de l'AI. Il entrera en fonction mercredi prochain. On vous en parle dans ce journal. Les Chasselas vaudois restent parmi les meilleurs. C'est l'avis du jury de la 10e édition du Mondial du Chasselas. Les prix ont été remis hier et dans la catégorie des blancs secs, c'est le millésime 2019 de la réserve de la commune d'Aigle qui a été primé. Les marchés folkloriques de Vevey tirent un bilan positif de leur 51e édition. Malgré le pass sanitaire, les adeptes ont répondu présents cet été et demain pour le dernier marché. Les costumes de la fête des vignerons seront de sortie. Les adversaires du mariage pour tous, qui sera soumis au peuple suisse le 26 septembre, ont présenté ce matin leurs arguments à Berne. On entendra sur ce sujet le conseiller national PDC valaisan Benjamin Roduit tout à l'heure. Et puis du sport aussi dans cette édition. En athlétisme, le public présent hier soir à Athletissima a réservé un bel accueil aux concurrents suisses, mais c'est bien Léa Sprunger qui a eu le plus droit à la meilleure ovation possible pour sa dernière participation au meeting lausannois.
Et côté météo, du soleil pour cet après-midi et ce week-end, malgré une bise persistante. On fait un point complet sur la météo après le journal. Le journal de la mi-journée avec Yves Terrani, bonjour.
Bonjour, la complexité de l'administration peut s'avérer être un véritable casse-tête pour les bénéficiaires. Face à ce constat, l'Office Assurance Invalidité du canton de Vaud a décidé d'ouvrir un espace d'écoute et de conciliation. Il entrera en fonction le 1er septembre et on en parle avec vous Olivier Barraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Office Assurance Invalidité du canton de Vaud. Alors, 42 000 décisions rendues chaque année, dont environ 6 000 concernent une demande de rente. La moitié de ces dernières étant refusées, on s'en doute, votre office reçoit régulièrement des réclamations.
Alors, c'est vrai qu'on reçoit, on estime environ à 300 réclamations qu'on reçoit par année. Donc c'est vrai que le système de l'assurance invalidité, avec somme toute une complexité légale à appréhender, fait que ça peut nourrir des incompréhensions. Et c'est un des buts de cet espace d'écoute et de conciliation, c'est de pouvoir donner plus de place aux bénéficiaires, aux assurés, mais pas seulement, vous l'avez dit en introduction, aussi pour les collaborateurs, voire pour les médecins traitants ou pour les patrons d'entreprise qui rencontrent des difficultés en lien avec l'assurance invalidité.
Alors, on va y revenir dans un instant. Bien sûr, vous le disiez, hein, quand même un certain nombre plusieurs centaines de réclamations. Ce qui veut dire donc que cet espace répond maintenant réellement à un besoin.
Alors, on va voir quand il sera mis en route. Moi, c'est la conviction que j'ai, c'est que les administrations publiques, dont fait partie l'assurance invalidité, doivent s'ouvrir, doivent être plus accessibles, plus transparent pour les utilisateurs, quand on dit les bénéficiaires, mais pour nos bénéficiaires, ça fait partie, pour moi, en 2021, de la normalité d'une administration publique, de s'ouvrir davantage, et je pense que l'assurance invalidité est un domaine où on a encore un travail à faire dans le sens de cette ouverture, et cet espace est un des éléments concrets qui permet de matérialiser cette ouverture vis-à-vis des bénéficiaires.
Concrètement, quels sont les cas qui seront traités dans cet espace d'écoute et de conciliation ?
Alors, c'est une très bonne question. D'abord, dire que tous les cas qui sont fermés, où ça a été statué, bien sûr, on ne va pas les réouvrir. Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est pour les gens qui sont en procédure, qui sont en cours, où leur dossier est en cours d'instruction, où ils rencontrent des difficultés durant l'instruction de leur dossier. Et c'est là qu'on pourra, que l'espace d'écoute et de conciliation aura un rôle à jouer. Alors, on sait que les principales plaintes qui arrivent, c'est des questions de durée de traitement des dossiers et des questions qui sont liées à la complexité de l'application de la loi. Et là, c'est sûr que cet espace permettra d'échanger de vive voix aussi avec les assurés et pas à travers des échanges écrits, et permettra finalement d'amener cette huile dans les rouages. À présent, je tiens à dire que sur les 42 000 décisions qu'on prend par rapport au volume d'affaires, en règle générale, déjà, les premiers contacts que les gens ont avec des collaborateurs de l'Office AI permettent de répondre à la majorité des questions. Mais il y a une réalité, c'est que pour certains, cette complexité engendre des difficultés. Et c'est cette huile qu'on doit mettre dans les rouages.
Oui, justement, ce nouvel espace permettra d'écouter à quelque part ces personnes qui sont par essence dans une situation de vulnérabilité, ce qui accentue encore souvent l'incompréhension.
Alors, c'est Moi, je regrette toujours, vous savez, dans l'imagerie populaire, on a toujours l'impression que l'AI, c'est un peu David contre Goliath, alors que ce n'est pas du tout le cas dans les faits. Mais chaque personne qui vient solliciter des prestations de l'assurance invalidité est dans une situation difficile. C'est des personnes qui sont atteintes dans leur santé physique ou psychique, et donc elles sont dans une situation de vulnérabilité. Et quelquefois, le traitement normal ne suffit pas pour transmettre les explications ou pour résoudre des fois des décisions qui peuvent être difficiles à comprendre. Moi, je vois certains de nos courriers qu'on envoie qui ont un aspect légal. Je peux comprendre qu'une personne en situation de vulnérabilité ait de la peine à comprendre ses courriers. Et donc, ce sera aussi une des missions de l'espace d'écoute et de conciliation de pouvoir aider ces personnes-là.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, cet espace s'adresse aussi aux bénéficiaires, mais aussi aux employés de l'AI. C'était nécessaire de proposer cette prestation aux collaborateurs ?
Alors pour moi, quand on a commencé les réflexions, ça a été très rapidement sur la table, tout simplement parce qu'on a aujourd'hui 50% des cas qui nous sont assurés qui sont des cas d'ordre psychique. Et donc, pour nos collaborateurs, c'est pas toujours évident non plus, suivant les pathologies de nos assurés, de pouvoir maintenir le dialogue. Et quelquefois, il y a une rupture du dialogue qui fait que, même si nos professionnels sont aguerris, ils se retrouvent dans une situation en disant « bah là, je sais plus trop quoi faire ». Et le fait de pouvoir, cas échéant, pouvoir faire intervenir une tierce personne permettra d'aider à faire évoluer la situation et débloquer la situation. Et puis après, il ne faut pas faire d'angélisme non plus. On a aussi des assurés qui sont quelquefois menaçants avec nos collaborateurs, parce que là, ça va aussi avec les pathologies psychiques, ce genre d'attitude possible. Et donc là, ça sera aussi une possibilité de faire intervenir cet espace de conciliation pour essayer de trouver des solutions avec une personne tierce.
Merci Olivier Barraud. On précise que cette nouvelle offre complète ce qui existe, celle qui existe déjà dans le domaine socio-sanitaire, avec par exemple l'espace de médiation du CHUV ou la commission vaudoise d'examen des plaintes. Et puis j'ajoute que si les réponses apportées aux réclamations sont jugées insuffisantes, les informations seront données sur les voies de recours possibles. Merci Olivier Barraud d'être venu nous rejoindre dans ce journal. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office Assurance Invalidité du canton de Vaud et je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous aussi.
Le canton de Vaud recommande désormais la vaccination aux jeunes dès 12 ans.
Il suit ainsi la mise à jour des recommandations de l'Office fédéral de la santé publique et de la Commission fédérale pour les vaccinations. Rebecca Ruiz, ministre vaudoise de la Santé.
On a beaucoup de demandes aussi de la part de parents qui souhaitent savoir si oui ou non les jeunes doivent se faire vacciner, de la part des jeunes eux-mêmes, hein, parce que lorsqu'on a entre 12 et 15 ans, on est aussi en capacité de se positionner par rapport à cet acte de vaccination. Donc on adapte et on fait savoir l'adaptation de cette recommandation pour la population, avec aussi une extension du dispositif dédié pour ces jeunes-là, parce que c'est vrai aussi que ces personnes doivent pouvoir se faire vacciner dans de bonnes conditions, avec du personnel qui est habitué à travailler avec la population plus jeune. Donc on a désormais aussi un centre à Payerne qui va pouvoir vacciner. Dire aussi que maintenant, avec le vaccin Moderna, qui peut aussi être administré à ces jeunes, on a davantage de plages à disposition. Et puis le département de ma collègue Cécile Amarel annonce aussi mettre à disposition deux périodes pour les enfants qui veulent aller se faire vacciner, pour éviter que tout le monde n'aille se faire vacciner le mercredi après-midi.
Depuis l'ouverture fin juin de la vaccination aux jeunes dès 12 ans, un cinquième de la classe d'âge a reçu au moins une dose. On retrouve Rebecca Ruiz.
Ça fait depuis le mois de juin que cette vaccination pour les 12-15 ans a commencé. D'abord dans certains centres, les centres où on administrait du Pfizer, hein, puisque le vaccin Moderna n'était pas encore autorisé pour être administré à cette population. Donc on a déjà une couverture vaccinale de 20% pour cette tranche d'âge-là, avec des excellents résultats. On n'a pas du tout eu de problème majeur. Mais disons, ce qui est important de redire, c'est que la recommandation de la Commission fédérale de vaccination se base avant tout sur des études qui sont maintenant beaucoup plus fondée, parce qu'on a beaucoup plus de recul par rapport à cette vaccination à travers le monde, hein, de cette tranche d'âge de 12-15 ans, et où les résultats sont bons et où on n'a pas d'inquiétude à avoir.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Un homme de 64 ans a fait une chute de plus de 100 mètres dans une falaise au Diableret hier en milieu de journée. La victime, domiciliée dans la région, est décédée sur place. Cet accident en milieu particulièrement difficile a nécessité l'engagement d'un hélicoptère de la Réga avec un médecin, mais aussi de 5 gendarmes et 2 sauveteurs. La police vaudoise annonce que les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.
Les Chasselas-Vaudois restent parmi les meilleurs au monde.
Oui, mais si le canton de Vaud, pays du Chasselas précisément, accumule les zones d'autres régions s'illustrent de plus en plus régulièrement. Claude-Alain Mayor, secrétaire général du Mondial du Chasselas.
Il y a des régions qui émergent depuis toujours. Mais vous voyez, par exemple, les Valaisans, ils ont ce qu'on appelle des spécialités. La Petite Arvine, la Migne, d'autres, j'en passe. Ben, le Chasselas, c'est la spécialité du canton de Vaud. On n'a pas, nous, de spécialité, bien sûr qu'on en cultive un peu, mais notre spécialité, c'est le Chasselas. Le canton de Vaud fait 60% des échantillons cette année. Le Valais a mis lui-même 15%. Neuchâtel suit très bien aussi. Genève un tout petit peu moins, mais ça revient. Et puis à côté, il y en a dans tous les cantons, mais peu qui sont vinifiés. Et il y a en Allemagne, entre Bâle et Fribourg-en-Brisgau, il y a 1000 et quelques hectares de Chasselas. Et en France, il y a 3 petites régions, Savoie, Alsace et Pouilly-sur-Loire, curieusement, qui a une vieille tradition de Chasselas vinifié.
Le Chasselas vaudois n'est donc plus le seul prophète en son pays. Cette année, même ses plus vieux millésimes se sont fait concurrencer. Une catégorie de vin qui était longtemps restée sa chasse gardée. On retrouve Claude-Alain Mayor.
Là aussi, c'est une question de tradition. Et les grands domaines réservent un certain nombre de bouteilles par année pour les boire plus tard parce que ça peut être à l'occasion d'un mariage, d'une circonstance, d'un anniversaire ou d'un grand événement. Cette tradition paye puisque maintenant, en effet, les meilleurs ou presque toujours les meilleurs des vieux millésimes sont des vaudois. Mais d'autres s'y mettent et cette année, aux surprises, nous avons pour la deuxième fois un Allemand dans les vieux millésimes et un Valaisan.
Pour cette 10e édition, 762 crus ont été dégustés, soit 10% de plus que l'année dernière. Claude-Alain Mayor en est convaincu. C'est le signe aussi que le Mondial du Chasselas jouit d'une reconnaissance grandissante, y compris à l'international.
En principe, les grands concours internationaux, pour avoir le tampon, l'estampille de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui est l'organisation qui fait foi dans ce domaine, doit répondre à un certain nombre de conditions. Alors, il y en a qui sont évidentes, c'est-à-dire que les vins doivent se déguster à l'aveugle, on doit respecter une échelle de notation sur 100 points, on doit choisir des experts et des jurés qui sont des professionnels ou des amateurs qui ont fait leurs preuves dans des concours eux-mêmes. Puis cette année, en plus, nous sommes entrés dans la Vinofed, c'est-à-dire les, pour l'instant, 18 plus reconnus concours internationaux de dégustation. Nous sommes le 18e.
À noter que pandémie oblige, la cérémonie du jour hier remplaçait la traditionnelle fête du Chasselas qui a lieu généralement à Aigle le dernier week-end de juin. Une dégustation publique des vins primés sera toutefois organisée le vendredi 3 septembre en marge des journées suisses de l'œnotourisme. C'était un sujet signé Bertrand Girard.
Le dernier marché folklorique 2021 de Vevey aura lieu demain.
Et le bilan est plutôt positif pour cette 50e édition qui s'est déroulée dans des conditions sanitaires que l'on connaît. Comme de nombreux autres événements cette année, les mesures ont été assez strictes. Distance et passe sanitaire de rigueur en raison du nombre de personnes. Le passe Covid a d'ailleurs valu de nombreuses insultes à l'organisateur des marchés folkloriques, Jean-Louis Bolomé. Mais malgré les attaques personnelles, le commissaire se réjouit déjà du dernier marché.
L'année de la fête des vignerons, où on a fait des marchés folkloriques à la Tour de Paix, un ami m'a suggéré pourquoi pas faire le dernier marché chaque année en costume de la fête. J'ai dit pourquoi pas. On a essayé ça en 2019, il y avait une centaine de personnes qui sont venues en costume. Et moi je crois qu'il y aura au moins 150-200 personnes en costume. Il y a même une femme qui m'a laissé un message, je crois que je pourrais venir dans mon costume de 1977. Donc ça, mon Dieu, incroyable. Donc ça sera peut-être le meilleur marché, le plus différent.
Jean-Louis Bolomé au micro de Quentin Frey pour découvrir un vigneron de la région. L'ultime marché folklorique de cette 51e édition a lieu demain dès 10h sous la grenette de Vevey. Puis on reste à Vevey. Vevey qui s'active pour faire bouger ses jeunes et leur apprendre à circuler depuis leur plus jeune âge. Le premier projet se nomme Urban Challenge. Il est en libre accès. Il est né des réflexions entre l'équipe d'animation Jeunesse Veveyzanne et les monitrices et moniteurs du programme d'activité physique Open Sport. Grâce à des autocollants disposés sur le parcours, les participants peuvent les scanner scanner et trouver des jeux visant à tester leurs connaissances. L'autre projet est d'aménager un petit jardin de circulation sur la place du marché les 3 et 8 septembre prochains. Un circuit qui permet aux enfants de découvrir quelques règles de base de la circulation. Vous lire encore qu'une scène inédite s'est déroulée dans le Chablais mercredi. Les policiers vaudois ont poursuivi une vache à travers les vignes. Selon le journal 20 minutes, l'animal s'était échappé de son enclos à Corbérier dans la nuit de lundi à mardi. La vache a fini sa course dans le jardin d'un particulier à Aigle et a pu être rattrapée vers 21h après avoir été endormie par une flèche. Aucune perturbation de la circulation n'a été à déplorer et l'incident n'a fait aucun blessé. Des enfants sur commande, non aux dons de sperme et aux enfants pour tous. C'est avec ce slogan que les adversaires du mariage pour tous soumis au peuple suisse le 26 septembre prochain ont présenté leurs arguments ce matin à Berne. Ce n'est pas tant l'union de partenaires homosexuels qui leur pose problème, mais l'accès pour les couples de lesbiennes à la PMA, la procréation médicalement assistée. Toute la campagne des adversaires du mariage pour tous est axée sur les enfants. L'affiche en présente notamment un terriblement malheureux. Écoutez le conseiller national PDC Valaisan, Benjamin Roduit.
C'est l'enjeu central, hein, c'est l'enfance, c'est la procréation médicalement assistée. C'est une boîte de Pandore qu'on ouvre à la médecine reproductive pour tous. Le peuple suisse devra se prononcer sur les deux, le mariage et la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. Quels sont les droits de l'enfant à naître ? Eh bien, pour moi, c'est celui d'avoir au moins la chance, une fois, d'avoir un père et une mère. Et cela lui est complètement ôté avec cette loi. Pendant 2000 ans, hein, notre civilisation, qui est celle du progrès, hein, s'est appuyée sur une structure familiale composée de l'altérité sexuelle d'un père et d'une mère. Pourquoi est-ce qu'on voudrait changer ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait peut-être faire comme d'autres civilisations, tâtonner aussi avec de nouvelles structures sociales ? Moi, je m'appuie sur du fiable.
Oui, des propos recueillis par notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin, précisant qu'à un mois de la votation fédérale, les sondages prédisent un oui net à plus de 60% au mariage pour tous. Le Conseil d'État fribourgeois estime que l'initiative cantonale pour des transports publics gratuits, initiative déposée en décembre 2020, n'est pas adéquate en termes de financement des prestations publiques et surtout, elle est non conforme à la Constitution fédérale. Le gouvernement invite ainsi le Parlement cantonal à constater sa nullité, même s'il reconnaît que les objectifs poursuivis par l'initiative sont, je cite, « louables » et d'ajouter dans un message diffusé vendredi et aujourd'hui donc qu'il entend poursuivre sa politique de développement de l'offre de transport public afin d'atteindre les objectifs de mobilité durable et de report modal de son plan en faveur du climat. Les musées veulent continuer à recevoir les visiteurs sans certificat pour autant qu'ils respectent les plans de protection. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui l'AMS, l'Association des musées suisses. Dans le même temps, elle soutient l'appel à la vaccination. Le certificat est une option utile pour les musées ainsi que pour toutes les institutions culturelles lorsqu'elles organisent des événements avec un large public. Toutefois, l'AMS plaide pour que les plans de protection déjà éprouvés puissent continuer à être utilisés pour les visites normales au musée. Grande première dans l'histoire des guets de la cathédrale de Lausanne, une guette a été engagée depuis le 16 août dernier, selon un communiqué publié hier par la ville. La lausannoise Cassandre Berdoz scandera les heures de 22h à 2h, une tradition ininterrompue depuis 1405. Et cette information surprenante encore, l'orchestre roman Nexus s'apprête à prolonger l'œuvre de Beethoven avec une création inédite générée par l'intelligence artificielle. Elle sera jouée jeudi et vendredi prochain à Lausanne et Genève. C'est un extrait de la 10e symphonie que le compositeur allemand n'a fait qu'ébaucher avant sa mort qui sera présentée. D'environ 7 minutes, le morceau sera créé le matin même du concert par un programme conçu par un chercheur de l'EPFL, explique Guillaume Bernet, le chef et fondateur de l'orchestre Nexus, contacté par Keystone ATS. Jeudi matin, ce dernier ira imprimer la partition en compagnie de Florian Colombo, le concepteur du programme. Il retrouvera ensuite ses musiciens en fin de journée pour travailler cette nouvelle œuvre. Elle sera finalement jouée en soirée à la Salle Métropole à Lausanne, puis le lendemain au Victoria Hall de Genève.
Le bilan de la double attaque perpétrée par le groupe État islamique à l'aéroport de Kaboul s'est aggravé.
Il est monté aujourd'hui à 85 morts et quelques 150 blessés. L'atmosphère est tendue. À quelques jours de la fin prévue des évacuations des étrangers et Afghans cherchant à fuir le régime taliban, d'après un responsable de l'ancien gouvernement afghan, renversé, on le rappelle, à mi-août par les talibans, il y aurait beaucoup de femmes et d'enfants parmi les victimes. Selon lui, la plupart des gens sont choqués, traumatisés. Vous dire aussi que la situation semblait semblait plus calme ce matin à Kaboul, notamment autour de l'aéroport où les talibans avaient renforcé leur barrage et où la foule semblait avoir disparu par endroits. Précisons que l'ONU demande à ce que les responsables de ces attentats soient pris et poursuivis en justice dès que possible. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé souhaite pouvoir acheminer du matériel médical dans les prochains jours à Mazar-i-Sharif. Une série d'explosions dans un dépôt de munitions au Kazakhstan a causé la mort d'au moins 9 personnes, a annoncé aujourd'hui le ministère local des situations d'urgence au lendemain de l'incident. Dans un communiqué, le ministère a précisé que 4 personnes étaient toujours portées disparues après ces explosions survenues jeudi soir dans un dépôt du sud de ce pays d'Asie centrale. Et on termine ce journal avec du sport, du football. La Swiss Football League et les clubs mèneront ce week-end une action contre le racisme et les discriminations. Tous les capitaines des équipes de Super League et de Challenge League ainsi que les arbitres porteront un brassard avec l'inscription « No to Racism ». Cette initiative intervient à une semaine après les remous lors du match entre Saint-Gall et Sion. Le gardien valaisan Timothy Fayoulou a déclaré avoir été victime de cris de singes et d'insultes de la part des supporters adverses. Une enquête à ce propos est en cours.
Près de 13 000 personnes ont assisté hier aux adieux de Léa Sprunger à Atletissima.
La Vaudoise qui rangera ses pointes au terme de la saison a fait sa dernière apparition sur la piste du stade de la Pontaise à Lausanne et à cette occasion elle a non seulement pris part aux 400 mètres et sa discipline de prédilection mais elle en a aussi profité pour boucler la boucle. L'athlète de Nyon s'est en effet aligné sur le 4x100 mètres en fin de soirée comme il y a 10 ans. Alors comment a-t-elle vécu ce meeting si particulier? On écoute sa réponse.
C'est vrai que c'était particulier, mais après j'y étais préparée. Je savais que ça allait être spécial, qu'il allait se passer des choses. C'est difficile de tout anticiper, mais oui, forcément, c'était différent qu'un meeting normal.
Léa, vous ne saviez pas trop comment vous alliez réagir ce soir, comment vous alliez gérer tout ça. Vous êtes contente, mission accomplie au niveau de la gestion des émotions?
Oui, je pense que j'ai été pas trop mauvaise. La présentation des athlètes à 7h30 a été importante parce que j'ai pu vraiment sentir un petit peu le public et j'ai eu quelques minutes pour anticiper tout ce qui allait se passer justement avant ma course. Donc je pense que ça a été une mission accomplie, oui.
Aligné sur le 100 puis le 4x100 mètres, Mujinga Kambuji n'a pas manqué de savourer l'ovation réservée par le public à Léa Sprunger, ce qui était totalement mérité à en croire la bernoise.
À la fin, je crois que c'était sympa de partager ce moment tous ensemble. C'est ici où ça a commencé il y a 10 ans avec le relais et puis elle était toujours une grande partie de ce relais. Et puis je pense que c'est vraiment un moyen très sympa pour lui dire au revoir aussi du côté de relais. Et puis elle a fait énormément pour l'athlétisme et puis c'est vraiment pour moi aussi sympa ou vraiment joli de partager ce dernier athlétisme avec elle.
De son côté, Ayla Del Ponte, sixième du 100 mètres, s'est montrée particulièrement émue d'assister aux adieux de sa grande copine au meeting d'Atletissima.
Oui, c'est beaucoup d'émotions. Je pense qu'on réalise gentiment ce soir ce que ça va vouloir dire. Elle va manquer. Je sais que de toute façon, elle va continuer à suivre tout ça juste un peu de côté. Et en tout cas, je lui souhaite tout le meilleur pour ce qui vient.
Mais si cette soirée a été marquée par les adieux de Léa Sprunger, le meeting d'Atletissima a aussi permis à la relève suisse de goûter au plus haut niveau. Alignée sur le 200 mètres, la sprinteuse de Jonny, Léonie Pointé, fait partie des jeunes Helvètes qui ont découvert hier le rendez-vous lausannois. Un moment forcément très particulier pour elle.
Franchement, c'était ouf. J'ai pas l'habitude, donc quand je suis arrivée sur le stade, j'étais très stressée. Parce que ça, y a beaucoup de bruit et tout ça, donc j'étais impressionnée. Mais au final, ça m'a poussée, c'était cool.
Ce 200 mètres avec un meilleur temps à la clé, meilleur temps personnel, comment ça s'est passé si on revient sur la course?
Bon, il y avait un peu trop de vent, donc il n'est pas homologué, mais techniquement, je pense que je pouvais faire mieux sur la ligne droite, parce que j'étais pas très bien. Du coup, je pense que je peux faire mieux.
Courir ici, à Atletissima, pour vous, ça représente quoi?
C'était un rêve de gosse. C'est vrai que j'ai fait le relais Ministar quand j'étais petite, mais là, c'est autre chose, quoi. C'est un 200 mètres avec des internationales, quoi. C'est ouf.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Alors pour Léa Sprunger, Atletissima n'est pas totalement terminée. La Vaudoise va prochainement intégrer le comité directeur du meeting lausannois. Voilà, et puisqu'on a parlé de sport, eh bien il y en a eu en régie, Stéphane. Oui. Une mouche vous a perturbé pendant tout le déroulement de ce journal. Vous l'avez eu pour finir ou non, elle tourne toujours?
Non, elle tourne toujours. Le combat de boxe est encore en cours.
Bon, c'est parfait. On va simplement ouvrir la porte tout à l'heure puis elle partira.
On espère. Merci.
Allez, bonne journée à tous.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec Store Chablais, partenaire Stobag pour vos protections solaires et portes de garage. Storechablais.ch.
À part quelques cumulus sur les crêtes, on attend un temps assez ensoleillé pour cet après-midi. On restera par contre avec une bise modérée sur la Riviera et un vent de vallée modéré dans la plaine chablaisienne selon Météo Suisse. Pour les températures, on attend 22 en plaine, 16 à 1000 mètres et 9 à 2000. Enfin pour ce week-end, le temps sera généralement ensoleillé en toute région. La bise sera toujours par contre présente sur la Riviera et le risque d'averse restera faible en cours de journée sur les reliefs. Côté température, on sera compris entre 10 et 20 en plaine, entre 7 et 16 à 1000 mètres et entre 4 et 9 à 2000. Si vous voulez consulter la météo à 6 jours, vous pouvez vous rendre sur notre site radiochablais.ch dans la partie service.